Welkom, beste luisteraars van Radio Centraal. Vandaag, zaterdag 24 september, speciaal editie verkiezingen over Congo. Dat is normaal gezien vandaag. Het was de programma over de redactie, maar vandaag dat het gaat over de redactie is overgenomen met de gasten van Sangonini. Achter de micro is Iskar Lucievo. En binnen een paar minuutjes, we zullen live uit Kinshasa met Adrien. We zullen spreken over de verkiezingen in Democratische Republiek van Congo en de toekomstige verkiezingen. En ik wens aan jullie al een prettige zaterdag. En we zullen proberen tijdens die twee uur uitzending alles over de verkiezingen en de toekomst in Congo.
Juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas une veste de cachet.
Et je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et toutes les auditrices de la Radio Centrale aujourd'hui, samedi 24 septembre. Une édition spéciale au sujet des élections à venir pour le mois de novembre en République démocratique du Congo. D'ici quelques minutes, nous partirons du côté de Kinshasa pour pouvoir avoir déjà les premières nouvelles venant de Kinshasa. Nous avons dans le studio aussi déjà notre premier invité qui va nous accompagner tout au long de cette émission, Monsieur Christian Bamba, que je salue déjà. Bonjour, Monsieur Bamba. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Alles in orde?
Alles in orde.
Oké, goed. Zoals jullie verwachten, we zullen deze programma proberen in tweetalig te doen, in het Nederlands en in het Frans. Merci à vous tous et un petit morceau de musique et nous allons déjà entrer dans le vif du sujet. Vous êtes truc in onze studio met live Adrien et Kinshasa. Goedemiddag Adrien. Bonjour Adrien.
Goedemiddag Iskar. Goedemiddag aan al van ons luisteraars en luisteraars. En tout cas, bonjour à tout le monde, à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices. On est ici à Kinshasa, samedi 24 septembre 2011. L'actualité est dominée ici jusqu'à par la liste des différents candidats aux législatifs, liste qui est apparue depuis avant-hier soir et qu'on a pu lire dans différents journaux et revues ici à Kinshasa, et aussi les débats autour des différents candidats présidentiels aux élections de 28 novembre. Et bien sûr, il y a aussi d'autres actualités. L'actualité sociale grogne au niveau des magistrats qui sont en train de revendiquer l'augmentation de leur salaire et qui actuellement revient à 400 dollars et théoriquement leur salaire devrait être augmenté jusqu'au niveau de 1500 dollars. Donc il y a aussi grogne au niveau de certains professionnels, au niveau de l'enseignement supérieur, à l'UNIKIN notamment. Et actualité, il y a aussi les différentes constructions, infrastructures au niveau de Kinshasa qui s'accélèrent jusqu'à.
Oui, Adrien, pour aller droit au but, en fait, en ce qui concerne le processus électoral aujourd'hui, et il y a toute il y a déjà toutes les en tout toutes les prétendants à la magistrature suprême ont-ils présenté déjà leur candidature?
Tous les prétendants ont déjà présenté leur candidature puisqu'il y a la liste des candidats qui sont retenus. Si je ne me trompe pas, ils sont au total à 11. On aura d'ailleurs l'occasion de d'analyser ces différentes candidatures avec le DGA, le directeur général de la radio centrale ici à Kinshasa, radio centrale avec un seul A, c'est sur 89.3 FM à Kinshasa, une radio qui émet depuis une année et qui a vraiment du succès ici au niveau de Kinshasa. Thierry Mons, c'est comme ça qu'on appelle ici, on sera avec lui ensemble en tout cas pour entrer en profondeur au niveau de ces différents candidats. Au niveau de l'opposition, on a Étienne Tshisekedi qui est un grand concurrent de l'actuel président sortant, Joseph Kabila. Il y a entre autres Vital Kamerhe de l'Union Nationale Congolaise, l'UNC. Il y a Kengo Adondo, qui est aussi présent, et d'autres candidats comme Moussa Niamoussi, qui était dans l'ancienne majorité présidentielle et qui aujourd'hui est devenu opposant. Moussa Niamoussi, très populaire au niveau du Nord Kivu. Et il y a d'autres candidats, un certain Kakese, qui est très loquace, qui est très éloquent et qui s'exprime comme s'exprimait le feu maréchal Mobutu. Donc il a vraiment la voix de Mobutu, c'est les candidats Kakese. Et il y a encore d'autres candidats jusqu'à...
D'accord, Adrien. Merci. Ersin Antal Allah dit présidentieelschap kandidaat ze hebben allemaal hun kandidatuur voorgesteld aan CENI, de commissie die alle kandidatures registreert. Dus Adrien, voor we hebben die laatste dagen een persconferentie van Vital Kamerhe in verband met de balans van de actuele regering van de heer Mouzito. Wat denkt alle andere oppositieleider in verband met deze verklaring van president Kabila in verband met zijn balans van bijna vijf jaar regeringschap?
Ja, il faut dire que Vital Kamerhe, comme tu l'as dit, a essayé de donner son avis par rapport au discours de président Kabila. Et bon, il faut le dire, il fallait s'y attendre. Vital Kamerhe est un concurrent de Joseph Kabila. Il n'a pas été du tout, en tout cas, ça, comme je dis, il n'a pas fait des cadeaux, hein. Par rapport au discours de Kabila, il a critiqué son discours. D'après lui, son bilan est totalement négatif, puisque pour Kabila disait que 5 ans de législature, il s'est exprimé devant la majorité présidentielle. Donc il faut le dire, c'était une déclaration qu'il a faite à tous ses partisans, c'était à la ferme de Kingakati. Et pour Joseph Kabila, le bilan est positif. Et que il a encore dit que le peuple sait qui a fait quoi et qui est qui. Et c'est vrai que je suis Kamerhe qui n'a pas été très doux par rapport au président. Il a sévèrement critiqué le président Kabila et il a dit que c'est le président Kabila qui est le responsable de l'actuel désastre social. Il faut le dire que il y a beaucoup de problèmes sociaux ici, bien qu'il y a un effort qui s'est fait surtout au niveau des constructions des infrastructures routières. Et il n'y a pas que Vital Kamerhe qui a critiqué le président Kabila, il y a aussi des déclarations d'autres candidats. J'ai suivi la déclaration aussi de Moussa Niamoussi, qui n'a pas été, en tout cas, doux à l'égard du président Kabila. En attendant, la propagande électorale qui débutera dans 3 semaines plus ou moins, ça sera vers le 15 octobre, il faut le dire que le décor au niveau médiatique ici à Kinshasa est largement dominé par des débats contradictoires entre différents acteurs de la majorité présidentielle qui sont en train de défendre leur mandat de 5 ans, qui sont en train de dire que ce mandat a été positif, où beaucoup de choses ont été faites, bien qu'il y ait encore beaucoup à faire, et de l'autre côté, l'opposition qui est en train de critiquer sévèrement ces 5 ans des mandats passés sous Kabila et sous le Premier ministre Mouzito. Donc il y a des débats tous les jours ici au niveau de la presse locale dans différentes chaînes. Et ce qui est positif, il faut le dire, que le débat est vraiment démocratique. Hein. On sent qu'il n'y a pas trop de fanatisme. Et dans presque toutes les chaînes, il y a différentes tendances qui s'expriment. Et on espère que d'ici là, le peuple aura à s'exprimer librement en Jifka.
We zijn samen hier in onze studio met Christian Bamba en Jean-Jacques Moulage. Christian Bamba heeft een vraag voor u.
Nederlands of Frans?
Dat maakt niet uit.
Als men spreekt over infrastructuur, wat zijn de werken die uitgevoerd werden door de huidige regering? Iedereen weet dat Congo heeft het grootste potentieel qua rijkdom. Hè? En de huidige regering zegt dat hij bezig was met vijf werven. Hè? Dus hij verdedigt zich met zijn vijf werven. Maar wat vertegenwoordigt deze werven? Wat heeft hij eigenlijk gedaan? Als over infrastructuur, wat is het eigenlijk?
Oui, justement, si j'ai bien compris votre question, concernant les infrastructures, il faut le dire qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en train d'être faits au niveau des provinces pour relier les différentes provinces, Kisangani, Nord Kivu, National 1 entre Kinshasa et Matadi, il y a au niveau du Kasaï, hier je suis vu à la télé l'inauguration de la route qui relie Mbujimayi à Cabinda. Et il faut vraiment le remarquer, le dire, au niveau des infrastructures, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, puisque dans les passés, le Congo était quasiment vraiment nul au niveau infrastructure. Et ce n'est qu'à ces points-là que les efforts sont en train d'être faits, et c'est là aussi qu'il y a des efforts visibles, hein, donc des actes visibles qu'on voit tous les jours. Et il faut le dire aussi que la cellule de presse du président Kabila, au niveau de la visibilité des cinq chantiers, est très active à ces niveaux-là. Et dans presque toutes les chaînes, que ce soit dans la presse de l'opposition, on est en train de voir tous les jours les constructions qui sont en train d'être faites. Et moi, je suis à Kinshasa, ça je peux vous assurer que Kinshasa, actuellement, quand on vient de Mongaliema jusqu'à Limete, on peut faire 10 minutes, les routes sont très bien faites. Il y a des efforts qui sont en train d'être faits à ces niveaux, au niveau des infrastructures. Comme l'a dit la personne qui vient de poser la question, le Congo est très riche, mais jusqu'à présent, la population n'arrive pas encore à profiter de cette richesse au niveau social. Il y a les fonctionnaires qui sont payés très maigrement, un salaire de 5 dollars qui ne suffit pas pour nouer les deux bouts du mois. Les magistrats qui revendiquent leur salaire, salaire qui revient actuellement à 450 dollars, et normalement, théoriquement, il devrait être payé à 1500 dollars. Au niveau des fonctionnaires, comme on dit, la revendication qui sont en train d'être faites au niveau de Moody, hein, la résolution qui a été retenue il y a quelques années, il y a 4 ans, n'a pas été encore appliqué, le panier Mboudi, qui consiste à augmenter les salaires des fonctionnaires. Donc il y a des grosses par-ci, par-là, bien que côté infrastructure, ça, je peux vous le dire, là il y a vraiment de la visibilité et la population dans son ensemble, et même les acteurs politiques de plus en plus, ils reconnaissent en tout cas au pouvoir sortant un effort au niveau des infrastructures. Et là c'est vraiment visible, hein, c'est tout le monde qui le sent. Il n'y a plus d'embouteillage comme ce fut le cas il y a une année. On est en train d'élargir les différentes routes au niveau de Lumumba, là c'est fini. Au niveau de Moulard, au niveau de Mongaliema, au niveau de Kitambo. Et actuellement aussi, il y a des grands travaux qui sont en train d'être faits à la route qui vient de l'aéroport d'Njili jusqu'au boulevard Lumumba. Et aussi des grands travaux au niveau de l'échangeur délimité. L'échangeur délimité qui, paraît-il, sera la miroir, en tout cas le miroir des Kinshasa. Tous les touristes dans les 5 années à venir, paraît-il, se retrouveront au niveau de l'échangeur délimité. Ils trouveront là le miroir, la beauté de Kinshasa, et il y a des grands travaux, puisque là, je suis à côté délimité de l'échangeur, il y a des grands travaux qui sont en train d'être faits par des Congolais, il faut le dire, c'est des Congolais qui travaillent, il y a beaucoup de Congolais qui travaillent. Au niveau emploi, moi je crois que c'est là aussi le côté positif, il y a beaucoup de maçons, des constructeurs congolais qui sont actifs, et il y en a beaucoup partout à Kinshasa.
Oui. En wat over het onderwijs, de gezondheid en op sociale vlak?
Y a-t-il des évolutions en ce qui concerne l'enseignement, l'éducation, dans l'enseignement, l'éducation et la santé? Quelles sont les avancées réelles vraiment?
Enseignement, éducation, santé, je crois qu'il y a encore des problèmes. Hein. À ces niveaux-là, il y a de petites inaugurations. Hein, il y a eu l'inauguration des universités catholiques de Bukavu qui a été rénovée. Il y a eu la construction et l'inauguration, je crois, la semaine prochaine de l'université de Kindu qui, paraît-il, est la première université officielle depuis l'indépendance. Donc, depuis l'indépendance, le Congo n'a jamais construit une université officielle et l'université de Kindu sera inaugurée probablement par le président Kabila dans 2 semaines ou pendant la période de la propagande électorale. Il y a quelques actions par-ci par-là, mais je crois qu'il y a quand même un grand problème, hein, au niveau de l'enseignement. Le niveau est très bas et les différents candidats qui se présentent aux élections auront beaucoup du travail à faire à ce niveau-là, au niveau de l'enseignement, dont le niveau est vraiment au rabais. Et au niveau de la santé, il y a l'hôpital du cinquantenaire qui sera le plus grand hôpital, le plus grand complexe hospitalier de l'Afrique centrale sera inauguré dans 2 semaines. Il paraît que tout est fin prêt, ils sont en train de tester le matériel, les différents matériels qui sont venus. Et il faut le dire que ça sera l'une des infrastructures qui fera la fierté en tout cas du Congo. Mais cela ne suffit pas, hein. L'hôpital du cinquantenaire, qui sera le plus grand complexe hospitalier, il faudrait qu'il y ait encore d'autres hôpitaux. Ils sont en train d'inaugurer quelques centres hospitaliers, des petits centres hospitaliers partout, par-ci, par-là, dans différentes régions. Mais il faut le dire que le Congo est très grand. Il faudrait faire vraiment un grand effort. Et l'effort des gouvernements, je crois, ne suffit pas. Il faudrait aussi l'implication de partenaires extérieurs qui, il faut le dire, sont présents ici. Mais il faudrait multiplier en tout cas des efforts et côté gouvernemental et côté ONG extérieur. Au niveau du social, comme je l'ai dit, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Le pouvoir d'achat de la population est très faible. Hein. Bien que la monnaie congolaise, le franc congolais est stable, mais le pouvoir d'achat est très faible. Et c'est d'ailleurs à ce niveau-là que des frais en tout cas s'atteler le prochain président congolais qui sera élu le 6 décembre. Le côté social est vraiment catastrophique.
Oui, Adrien, j'ai une question. Oui. Bon, ma question est celle-ci. J'ai l'impression que les différents candidats passent leur temps à critiquer. Mais est-ce que lorsqu'ils critiquent, ils font des propositions, des contre-propositions? Parce que lorsqu'on dit que voilà, la situation sociale n'est pas bonne, est-ce qu'ils disent pourquoi ce n'est pas bon? Parce que c'est facile de dire que c'est le président Kabila. Et c'est étonnant de la part d'un monsieur comme Moussa Moussi, jusqu'à la veille, il est ministre dans le gouvernement pendant 5 ans et qu'au lendemain, il critique l'action gouvernementale dans laquelle il a participé toute la législature. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je parle de même de Vital Kamerhe. De Vital Kamerhe qui a été un des concepteurs du programme des 5 chantiers et qui l'a soutenu jusqu'à son éviction à l'Assemblée et que tout d'un coup, bon, il critique ça. Moi, je pense que c'est tout de suite pas que c'est trop facile pour les Congolais de critiquer alors qu'ils ont été à la conception comme Vital Kamerhe, il a participé. Bon, une autre question, c'est que c'est le peuple congolais, est-ce que il ne comprend pas le jeu qui se passe. Parce que, bon, critiquer, c'est bien. Est-ce qu'ils ont un programme outre que ce qui est fait maintenant? S'ils disent que le social n'est pas bien, qu'est-ce qu'ils proposent? Avec quels moyens? Venant d'où? Ça, c'est ma question.
Justement, ta préoccupation, c'est aussi la préoccupation de beaucoup de Congolais hein, que je rencontre, qui suivent le média. Et les gens se rendent de plus en plus compte que l'opposition n'a pas un programme, n'a pas d'alternative. C'est pour cela que les élections du 28 novembre ne sera pas facile pour tout le monde, hein, que ce soit pour le monde du gouvernement et que ce soit aussi pour l'opposition. Donc les gens ne savent pas qui voter, ils n'ont confiance en personne. Les gens n'ont pas confiance et aux différents opposants qui ne donnent pas l'alternative. Ils sont là en train de critiquer, mais c'est comme s'ils n'ont pas d'idée. Il y a des grands partis comme l'UDPS, quand on voit leurs membres passer à la télé, il n'y a pas d'alternative, ils se limitent à critiquer ce qui est fait. Et justement, c'est ça aussi le grand problème. C'est le constat de beaucoup de gens que je rencontre, que j'essaye d'interroger, ils se disent, bon, il y a même des gens qui se disent, non, on ne votera personne, quoi. Donc, ou ils n'iront pas voter. Donc, on attend la propagande, peut-être que les gens changeront d'avis, ou pendant la propagande électorale, les différents candidats et aux législatifs et au niveau présidentiel auront à motiver, à convaincre les différents électeurs à voter pour eux. Mais pour le moment, ça je peux vous le dire, les gens, la tendance est que les gens n'ont confiance en personne, ni à l'opposition, ni au niveau de pouvoir. Mais il faut le dire que, ça je peux vous le dire, de plus en plus les gens se disent, reconnaissent quand même le président actuel, hein, les efforts qu'il a été fait. Donc quand on essaye un peu d'interviewer les gens, et même les différents partis politiques, lorsqu'on les interviewe en dehors du média, les gens sentent que le président Kabila serait élu. Et beaucoup de partis politiques d'opposition essayent plutôt d'avoir peut-être une majorité au niveau du Parlement pour essayer d'être un contrepoids du pouvoir. Puisqu'il faut le dire que Kabila a une avance au niveau propagande électorale ici. Par rapport aux différents partis politiques et le média, il faut le dire, que ce soit le média du pouvoir et que, de l'opposition, est en train de faire passer les différentes actions menées par Kabila. D'ailleurs, moi-même, j'étais étonné de constater ça. Et ils n'ont pas le choix puisque le pouvoir a de l'argent, il utilise cet argent-là pour faire la propagande. Et dans ces médias, médias présidentiels tels que Digital Congo, Groupe L'Avenir et RTNC aussi, qui en majorité, bien qu'on essaye d'abalancer de ce côté-là, RTNC, télévision officielle, on essaie de balancer pour que la majorité et l'opposition aient leur place à ce niveau, mais c'est plus dominé par la majorité. Et la majorité est aussi présente dans les chaînes comme CCTV, qui est la chaîne de MLC de Jean-Pierre Bemba, Canal Kin, puisqu'ils payent, donc ils payent leurs droits pour qu'on fasse passer la publicité des cinq chantiers. On sent que le président sortant, jusqu'à présent, ça je peux le dire, est favori. Et même quand tu interroges les gens, tu sens que lui, il est un peu à l'écart. Il y a plus les débats entre différents opposants, de savoir qui va affronter le président Kabila. Donc, et au niveau législatif, il y a beaucoup de candidats. La liste est sortie il y a avant-hier. Et par exemple, dans la circonscription de Lukunga, on m'a dit qu'il y aura... Il n'y aura que 5 candidats qui seront élus et il y a plus de 1000 candidats pour 5 candidats, donc ça ne sera pas facile.
Adrien.
Et l'analyse qu'on a faite avec... Oui,
on va essayer de te répondre un peu plus tard, le temps de pouvoir essayer aussi de faire la traduction pour nos auditeurs.
Ok, merci.
D'accord, à tout à l'heure. Yeah, oui, comme un truc in 11 studio. Christian Bamba, volgens Adrien, hij zei dat de huidige president Joseph Kabila, hij heeft een serieuze voorsprong te vergelijken met de oppositie. Ja. En volgens Adrien ook dat een oppositie heeft geen alternatief.
Ja, dat is, voor mij dat is een... Een zeer belangrijke punt. Hè? Omdat ja, de oppositie probeert... Dus, het is een democratie. Hè? Dus een democratisch systeem. Iedereen probeert zijn mening te geven en door de verkiezingen ook zijn standpunt te kunnen geven. Maar hier, een belangrijk punt is dat het blijkt dat de oppositie heeft geen alternatief. Dus wat hebben ze aan te bieden? Dat is het vraagstuk. Dus, in andere woorden... Hè, de toestand is zeer slecht. En de toestand verslecht elke dag. Hè. Voor mij, eerst in Congo, een chaos. Hè. En blijkbaar, de oppositie gaat de toestand niet veranderen. Dat is het grote probleem. Wat hebben ze concreet te bieden? Hè? Die is anders is dan wat nu aan de gang is. Dat is het vraagstuk. Hè?
Denkt u dat de Congolese bevolking op dit ogenblik, ze begrijpen echt wat zou nu echt gebeuren met de toekomstige verkiezingen?
Nee, het feit is dat ze hebben geen trouw in de verschillende deelnemers. Hè? Dus er is toch een grote malaise. Hè? Normaal gezien moeten de verkiezingen op aanbrengen. Maar blijkbaar hebben de meeste mensen geen trouw in de politici. Dat is een probleem. Hè? Dat is een groot probleem. Mm-hmm.
Want nu al in de kant van Europa, er zijn aantallen betogers in de Congolese gemeenschap, zelf hier in België, in Frankrijk, mm-hmm. Duitsland en alle andere landen in Europa. Mm-hmm. En ze proberen een beetje de huidige regering onder druk te zetten, yeah. om het land te kunnen moderniseren, mm-hmm. om die infrastructuur te kunnen opbouwen, om... Yeah. om om meer werken te kunnen creëren. Mm. Maar op dit ogenblik, wij zien geen effectieve oplossing of geen effectief alternatief. Mm. En wat denkt u van?
Voor mij is er echt een blokkage in Congo. En voor mij, ik ben een religieuze man, hè. En voor mij zal de oplossing komen van de religie, de toekomst, de godsdienst. Iedereen weet dat er in Congo zoveel voorspellingen zijn al gebeurd over de toestand dat we nu meemaken. De toestand in Congo werd al jaren geleden voorspeld. Ja. Als men spreekt over voorspellingen, jullie gaan zeggen dat het gaat over geen concreet, dat is te subjectief. Maar het probleem is dat we nu meemaken wat was jaren geleden voorspeld. De blokkage van vandaag, dat is geen toeval. Dat is geen toeval. Hè? Dat is geen toeval. Hè? En de drie regeringen dat we hebben meegemaakt, hè? Ze werden door Simon Kimbangu voorspeld. Hè? En alles wat hij had gezegd, hè, is nauwkeurig. Hè? Alles is nauwkeurig gebeurd. Hè? En we zijn een volk met toch een spiritualiteit. Hè? Bij ons, als de situatie zo lang duurt en er is geen oplossing, we moeten zich afvragen wat is verkeerd. Dat is de normale reactie bij ons. Hè? En als we zich afvragen, ja, wat is verkeerd? Hè? We moeten toch we moeten toch kijken naar wat werd in het verleden gezegd. Hè? Simon Kimbangu had over de toestand van het land gesproken, over de drie regeringen. En alles wat hij had gesproken, alles wat hij had gekondigd, is gebeurd. Hè? Voor mij, de blokkage dat u nu meemaakt, ik ben niet daarover verbaasd. Ik wist daarover. En ik weet dat morgen, het gaat niet veranderen met de dezelfde mensen. Hè? Wat is de oplossing? We gaan daarover verder later spreken. Hè? Ik geef u het woord.
Maar begreep u dat de mensen die naar ons op dit ogenblik aan het luisteren, ze hebben moeilijk te volgen met uw uitspraak dat voor de Congolezen, omdat ze Congo of de Congolezen hebben zo'n spiritualiteit, dus de oplossingen voor een betere toekomst passeert echt om...
Ik ga verder grondig uitleggen. Maar ik wil ook toevoegen dat ja, de toestand van de Afrikaanse landen is niet gemakkelijk. Hè? Dus we proberen democratie toe te passen. Mm-hmm. Hein? Hein? Toe te passen. Maar democratie is voor mij geen panacee. Dat is geen...
Wat betekent eigenlijk een democratie voor,
democratie
voor
betekent,
de Afrikanen?
Ja, democratie betekent macht bij de volken. Dus het volk heeft de soevereiniteit. Hè? Dus demos, het volk, kratos, de macht. Hè? Maar democratie is een westerse systeem. Hè? Die komt uit Griekenland. Hè? En democratie is dus het systeem die nu in de westerse land eerst. Hè? Maar zeggen dat het macht is in de handen van het volk, dat is niet waar. Hè? Omdat het macht uiteindelijk is in de macht van de financiële wereld. Hè? En is in de macht van de financiële wereld, van de mensen die de media beheersen. Dus als, voor mij, als we moeten een systeem toepassen, het moet een systeem zijn waarin de macht echt in de handen van de volken is. Of een systeem waarin eerst echte gerechtvaardigheid, hè? Dus waarin de mensen zijn content, tevreden, en waarin de sociale toestand goed is. Hè? Amerika is een land die democratie overal in de wereld probeert te exporteren, maar als je gaat in Amerika, hè, de sociale toestand is zo moeilijk. Hè?
Ik ga met akkoord met u, maar we zijn nu bezig met de Congo.
Ja,
maar,
ja.
Adrien heeft een paar minuten geleden verteld dat nu de huidige president probeert een aantal gebouwen, edificen te inaugureren. Maar binnen een paar weken de officiële campagne zal al beginnen, maar hij is misschien al in de campagne.
Ja, hij is al in de campagne, maar voor mij zal de toestand niet veranderen. Hè? We spreken over infrastructuur, gebouwen, maar voor het potentieel van Congo, dat is een druppel in de oceaan. Hè? Congo, hè? Moet Congo een reus in Afrika worden. Hè? Congo heeft het potentieel om het hele Afrika, hè, naar een goede sociaal en economisch niveau te brengen. Congo is heel rijk. Het is het rijkste land ter wereld. Er is geen land ter wereld die rijker dan Congo is. Maar
Christian Bamba, die eigendom die u bespreekt, dat is een potentieel. Dat is geen effectief. Jean-Jacques Moulage.
Oui, bon, moi je vais parler en français.
Je vous en prie.
Oui, j'ai entendu ce que Christian a dit. Tu sais, ça c'est le malheur des Africains. C'est le malheur des Africains, c'est de parler, et surtout des Congolais, de parler des potentialités et des richesses qui sont en fait rien du tout. Parce que richesse est richesse quand il est mis en valeur. Vous savez, c'est ça le grand problème. Il y a des richesses, vous pouvez avoir du pétrole, mais du moment où vous n'avez pas mis ça en valeur, ça reste rien du tout. Il y a longtemps, on ne parlait pas du coltan, mais le coltan existait. Le coltan n'est pas venu parce que on commence à en parler. Mais le coltan existait. Mais à ce moment-là, le coltan était une richesse. Parce que le coltan existait. Est-ce que c'était une richesse? Le coltan est devenu une richesse parce qu'à un moment donné, on a trouvé qu'il lui fallait. À ce moment-là, le coltan. Mais la grande richesse qu'il faut, c'est l'humain. La richesse naturelle et tout ça, ça c'est rien du tout. C'est l'humain. Quand nous regardons les pays occidentaux, je prends la Belgique. Qu'est-ce qu'ils ont? Rien du tout. La France, beaucoup de pays européens qui sont développés, si développés. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur sous-sol? Rien du tout. Mais ils ont une très grande richesse, c'est le potentiel humain. Et c'est ça le grand problème. Le grand problème de nos pays, il y a ça, mais il n'y a pas. Il n'y a pas assez des potentialités humaines. Quand je parle de quoi, c'est-à-dire que des gens qui osent, des gens qui osent entreprendre, les gens qui osent entreprendre, il n'y en a pas. D'ailleurs, quand nous les observons, nous voyons très bien comment se comporte la plupart d'Africains. C'est-à-dire que l'Africain n'a pas compris que c'est par le fait d'oser, le fait de créer. Si quelqu'un n'avait pas commencé à créer le GSM, le coltan ne servirait absolument à rien du tout. Donc maintenant, celui qui a initié le GSM, celui qui a commencé le GSM, c'est celui qui a donné de la valeur au coltan. Sinon, le coltan ne servait absolument à rien. Vous allez le manger. C'est comme le pétrole. Avant, à l'époque coloniale, quelles étaient les richesses? Le Congo vivait de quoi? De caoutchouc. Parce que c'était la révolution industrielle. Avec l'automobile, il a fallu faire des pneus et on a besoin de caoutchouc. Je pense que nous devons essayer de comprendre que ce n'est pas parce que on a le diamant qu'on doit... Non, c'est le diamant. Moi, je pense que c'est... Je voulais...
Pas du tout. Hein. Bon, donc, peut-être que c'est plus facile que je parle un peu en français ici. Hein. Donc, bien sûr, il y a les potentialités, mais ces potentialités, encore faut-il pouvoir les
mettre en valeur.
Les mettre en valeur. Et pour cela, il faut organiser les ressources humaines. Hein. Donc, il faut qu'on puisse non seulement faire appel à toutes ces ressources humaines hein, qui se sont formées à l'étranger et pouvoir les mettre au travail hein, et pouvoir organiser ce pays suivant une gestion hein, stratégique hein, par rapport aux enjeux mondiaux, par rapport à la situation économique de l'Afrique centrale.
Heeft Congo une stratégie pour sa toekomst?
Non, mais le problème, Khanid, over.
Non, over, Christian, vous pouvez répondre en français, il n'y a pas de souci. Moi,
le problème, ce n'est pas seulement au niveau de la stratégie. On peut avoir hein, les meilleures stratégies. Hein. On peut faire appel aux gens les plus intelligents. Hein. On a les moyens. Hein. On peut faire appel aux gens les plus intelligents. Concevoir la gestion. La plus efficace, hein? Mais, hein? Mais, ce n'est pas ça qui va nous garantir le succès. Spirituellement, je citerai une parole qui dit, l'or n'appartient pas aux intelligents, ni la course au plus rapide, hein? Ni la bataille au plus vaillant. C'est pas parce que tu es le plus fort, hein? Que tu vas gagner la guerre. C'est pas parce que tu es le plus intelligent, hein? Que tu vas réussir. Hein? Donc, bien sûr, nous nous disons que la réalité n'est pas vérité. Hein? Donc la réalité, hein, l'occidental, il s'efforce de concevoir la réalité à travers son intelligence. Hein? Bien sûr, il faut travailler. Et pour ça, il faut étudier, il faut faire de la recherche. Hein? Il faut élaborer des stratégies hein, efficaces. Hein? Pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer la réalité, hein, et c'est ce qu'on voit ici, hein, l'Europe est développée, l'Amérique est développée, mais nos efforts, hein, ne garantissent pas en toute absolue, hein, la réussite. Hein. Donc, en d'autres termes, hein, pour moi, hein. Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Bon, quand je parle de Dieu, ça devient très abstrait. Hein? Mais par rapport aux prédictions dont je parlais, hein? Pour moi, suivant la prédiction, et je citerai également la parole du pasteur Mukungula, qu'est-ce qu'il dira? Il dira que, bien sûr, ça peut paraître fort abstrait, hein, mais compte tenu du blocage, hein, pendant toutes ces années, ce blocage-là doit nous interpeller quelque part. Hein, c'est pas normal qu'on ne puisse ne pas avancer, malgré, nous ne sommes pas bêtes, hein. Mais comment se fait-il qu'on n'avance pas pendant toutes ces années, hein? Lui, il dira, d'un point de vue géostratégique, il dira quoi? Il dira que l'évangile, hein, qui a le pouvoir de libérer à un enjeu géostratégique. Donc, notre libération, hein, parce que nous sommes quand même sous le contrôle des pays étrangers, attention, hein, les choses ne sont pas aussi faciles. Donc, non seulement chez nous, on ne parvient pas à s'organiser, mais nous sommes aussi sous le contrôle des pays étrangers. Notre vraie libération...
Nee, maar Christian, dat is zo gemakkelijk. Deze soort discours, dat hebben we altijd in de Afrikaanse gemeenschap gehoord.
Oui.
Ja, dat is altijd... Wacht eventjes. Mm-hmm. Dat is altijd de schuld van de Europeanen. Dat is altijd de schuld.
Nee, Christian,
geef me 2 seconden. Dus het is altijd de schuld van de Europeanen. Het is altijd de schuld van Amerikanen. Maar wat,
dat heeft niet gezegd. Hè?
Wat zijn de verantwoordelijkheid? De verantwoordelijkheid
van de Congolezen. Je moet de eerst. Hè? We moeten zich afvragen wat we kunnen doen over voor ons land. Hein? Het is niet Frankrijk of België die onze toestand zal veranderen. We moeten eerst aan de slag gaan. Hein? En nadenken over hoe zullen de toestand van ons land verbeteren. Maar als ik zei, het is niet zo simpel. Hein? Vandaar eerst een chaos in Congo. En de meeste mensen hebben geen trouw in de politici. Hein? Zo, waar ligt de oplossing? Où est la solution?
Bon, je voudrais un peu parler à Christian. Tu sais, moi je suis pas très souvent trop spirituel, hein, parce que...
Bon, je suis spirituel.
Ouais, parce qu'il y a une chose que je veux, il y a des cas du monde qui montrent que ça n'a rien à voir avec les choses qui se passent sur la Terre. Parce que quand vous prenez la Chine sous Mao, sa Chine a été athée. On a interdit la religion parce qu'on a trouvé que la religion endormait les gens. Moi, je pense qu'au Congo aussi. Au Congo, je pense qu'à un moment donné, la religion, parce que c'est pas la religion, la manière dont les gens enseignent cette religion-là, les endorment, les pousse à s'endormir. Rien, absolument rien, même Dieu lui-même. Dieu, il dit que celui qui ne travaille pas, il ne peut pas manger. Il y a autant de versets bibliques qui poussent l'homme à travailler. Et Dieu, quand il a créé l'homme pour que l'homme participe à la création. C'est-à-dire que ce que nous trouvons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que, moi je pense qu'on a beaucoup prié au Congo, beaucoup. On a beaucoup prié, il faut maintenant travailler.
Échange avec Warum, c'est que tu dates.
Oui, je t'ai dit pourquoi. Regarde, je vais te dire une chose. À un moment donné, le peuple était abandonné à lui-même. C'est-à-dire que, quand Mobutu est venu au pouvoir, à un moment donné, Mobutu a interdit les religions. Vous savez, si aujourd'hui nous ne portons pas, les Congolais, la plupart des Congolais qui sont nés après 71 n'ont pas de prénom, même ceux qui sont venus à un moment donné, on n'avait plus de prénom. Parce qu'à un moment donné, Mobutu s'est dit non, pas de religion, pas... On enseigne le civisme, pas la morale et tout ça. Bon, je pense que si je dis qu'on a beaucoup prié, parce qu'à un moment donné, le peuple était abandonné à lui-même et le peuple s'est tourné vers le spirituel. Je ne connais aucun pays qui a eu un mouvement spirituel comme au Congo. Tous les hommes, tous les pasteurs du monde entier sont passés au Congo pour prêcher. Donc, à l'époque, entre période de transition de 90 à 96, je pense qu'il y a eu un mouvement que tu ne peux pas imaginer. Tu as au Congo, Giscard, une maison. Sur 2 maisons, une c'est une église. 2 maisons, une c'est une église. Et tout ça. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Quand tu analyses ces faits-là, tu comprendras pourquoi il y a eu ça. Je ne vais pas m'attarder dans cette histoire. Je vais dire quelque chose, c'est ceci. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'automobile électrique. C'est l'actualité aujourd'hui. Mais je vais vous dire quelque chose peut-être que vous ignorez. Déjà vers les années 70, il y a eu un ingénieur à la Gécamines à l'époque qui avait monté dans les usines des ACCP une voiture qui roulait sur batterie. Mais on n'en a jamais fait cas. On n'a jamais fait cas. La recherche, ici, partout, c'est la recherche. Donc, on met l'accent sur la recherche. La recherche, c'est quelque chose qui pousse à se développer. La recherche, c'est quelque chose qui pousse à aller de l'avant. Ce n'est pas en priant, ce n'est pas en invoquant. Attends, ce n'est pas en invoquant.
Nous voulons aussi investir dans la recherche.
C'est n'est pas.
Parce que l'avantage avec la recherche.
Christian a parlé. Donc, j'ai dit, Christian a cité quelqu'un.
Kleiner Rubliche, on va pauser. Là, comme direct truc. On fait une petite pause tout de suite parce que je vois que vous êtes. Le débat est très passionné. Donc, on pense un petit morceau de musique et on revient tout de suite après. Merci. Ja, was ein Trick. Obnieu, in unser Studio. Nous sommes de retour dans le studio. Christian Bamba, Jean-Jacques Moulage, vous voyez réagir avec vivacité, passion. Tout à l'heure, Adrien a fait signaler que non, oui, écoutez. Quand la formation, l'enseignement est complètement bâclé, toi tu nous parlais de la formation, la recherche et tout cela, et quand on voit aujourd'hui que non, la formation, l'équivalent qu'il y avait aujourd'hui des diplômes universitaires congolais n'ont plus cette valeur ajouté qu'il y avait d'antan, et quand vous nous parlez de la recherche et tout ça, mais bon, on voit que il y a un problème. Donc on a aligné avec Adrien. Adrien, essaye de nous donner un peu plus de précisions à ce sujet en ce qui concerne la formation aujourd'hui au Congo.
Oui, concernant la formation aujourd'hui au Congo, moi je crois que la situation actuelle est la conséquence hein, des situations antérieures. On sent que l'enseignement est au rabais. Les enseignants ne sont pas payés. Il faut le dire qu'il y a 20 ans, les enseignants, les professeurs d'université touchaient environ $10. Bon, aujourd'hui, il y a une augmentation. Je crois qu'il faudrait que ça augmente de plus en plus. C'est un côté positif. Mais je crois qu'il y a un grand problème au niveau des assistants des assistants qui ne sont pas très bien payés. Et les étudiants n'ont pas de bourse. C'est vrai que les politiciens du côté de la majorité disent que non, depuis longtemps, ça a été comme ça. Ou que le professeur gagne $5-$10. Actuellement, un professeur touche $1,000. Moi, je crois qu'il faudrait faire beaucoup d'efforts, construire les nouvelles institutions universitaires. À l'UNIKIN, par exemple, rien n'a changé. Hein. C'est l'université qui a été léguée par les Belges. Actuellement, on est en train de réfectionner, hein, de reconstruire la faculté des sciences économiques. On est en train d'installer des nouveaux laboratoires. Ces efforts, c'est des petits efforts. Qui doivent continuer et qui doivent s'étendre partout au Congo. Il y a des petites actions par-ci, par-là. Moi, je crois qu'au Congo, actuellement, l'effort de redressement du Congo demande, en tout cas, la convergence de toutes les forces politiques. Je ne pense pas que... c'est vrai que l'opposition, actuellement, est en train de critiquer le pouvoir, mais moi, j'ai l'impression que même si l'opposition... arriver à prendre ce pouvoir, à remplacer le pouvoir, à réussir leur alternance comme ils le souhaitent, je ne pense pas que la situation redeviendra comme une baguette magique à la normale. Donc,
Adrien,
le Congo, c'est un chantier. Oui, c'est ça.
Adrien, penses-tu que le huidige président et la huidige regering is the oplossing of zal nog in de toekomst de oplossing zijn voor de Congolese bevolking?
Donc l'actuel gouvernement, si c'est la solution pour la population.
Bien sûr. Et c'est la question que je pose.
Moi je crois qu'il faudrait qu'il y ait des nouveaux hommes, hein, avec des nouvelles idées surtout. C'est les nouvelles idées qui sera la solution pour le Congo. Ce n'est pas un parti politique ou une personne qui est magique qui serait la solution au Congo. Moi, je crois que c'est les changements des mentalités. Il y a une mentalité des non-excellences hein, qui est ancrée au niveau des hommes politiques, tout tendance confondue. Mais moi, ce qui me plaît de plus en plus, j'ai l'espoir, puisque de plus en plus dans les différents partis politiques, tu vois qu'il y a, beaucoup de jeunes, hein, des 30 ans, des 28 ans, et tu sens qu'ils sont plus, ils sont un peu différents de leurs aînés, qui la plupart étaient déjà de la génération de l'indépendance du Congo. Et ces jeunes, en s'exprimant, tu sens qu'ils ont cette volonté de construire le Congo. Moi, je crois que l'avenir du Congo, ce n'est pas l'actuel gouvernement, ce n'est pas l'opposition, mais c'est plutôt des nouvelles hommes, enfin des nouveaux hommes, des nouvelles idées et surtout la jeunesse. Et dans les débats actuels, tu sens que la jeunesse essaie un peu de se démarquer de ces grandes personnalités. Et de plus en plus, les jeunes prennent la place. Hein. Il y a plusieurs jeunes ici. Il y a un certain Germain Kambinga qui est très actif au niveau du MLC de Jean-Pierre Bemba. Il y a Jacquemin Chabagne au niveau de l'UDPS. Il y a des jeunes...
Adrien, je heb déjà besproken over UDPS, maar er zijn aantal mensen in de Congolese gemeenschap, ze bekijken de heer Tshisekedi als de messias voor Congo en voor de Congolese. Wat is de mening van de Congolese bij jullie in Kinshasa?
Hier in Kinshasa, ik denk dat niet, hein, Tshisekedi is de messie. Zoals gezegd in internet, of in Facebook, of in zo. Donc Tshisekedi, actuellement, ça je peux vous le dire, n'est pas une messie. Hein. Donc les gens, actuellement, ne pensent pas que Tshisekedi ou Vital Kamerhe viendra changer la situation. Et de plus en plus, il faut le dire, Tshisekedi perd beaucoup de plus en plus de voix, puisqu'il n'est pas présent hein, au niveau de la presse. On est ici, il paraît qu'il est en Europe, on parle vraiment pas de lui, peut-être sur internet, dans les radios et les télés de la diaspora, mais ici sur Congo, de plus en plus, ça je peux vous le dire, Tshisekedi n'est vraiment pas présent. Et ça m'étonne, hein. Et pourtant c'est les candidats qui étaient favoris, si je peux le dire ainsi, pour affronter Kabila. Mais on a l'impression que sa cote est en train de chuter et les gens voient en tout cas rien en Tshisekedi. En tout cas, là, c'est ça, c'est vraiment d'après mes constats. Donc, c'est ce qui favorise d'ailleurs hein, donc, le fait que de plus en plus, Kabila est vu comme une solution et par la majorité, par l'opposition, en suivant les discours des différents hommes politiques. On sent de plus en plus que Kabila sera reconduit et que la bataille se tournerait juste au niveau des législatifs.
Oui, Adrien, bon, c'est un peu un constat, parce qu'on a parlé de l'alternative. Est-ce que tu ne penses pas, bon, parce que depuis que je suis la scène politique congolaise, j'ai l'impression que... il n'y a pas d'alternative. Quand je parle d'alternative, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ce sont les mêmes personnes, les mêmes acteurs qui changent de costume. Tantôt ils sont opposants, tantôt ils sont au pouvoir. Et à ce moment-là, moi je ne vois pas comment, même quand les gens, par exemple, se détachent un peu du pouvoir, c'est pour pouvoir se permettre d'avoir une position et pouvoir négocier, se retrouver. Moi je pense que c'est difficile. Pour dire, comme le dit la Bible, on ne peut pas faire quelque chose de neuf avec du vieux. C'est impossible. Parce que tu vois que jusqu'à aujourd'hui, quand nous retrouvons à côté de Kabila, nous retrouvons tous les anciens Mobutistes, tous ceux qui ont été avec Mobutu, tous ceux qui ont fait, nous les retrouvons là-dedans. Et dans l'opposition, la même chose, ceux qui sont opposants, on retrouve que aujourd'hui, demain, ils sont. Maintenant, ils se mettent à l'écart pour pouvoir négocier peut-être après, pour pouvoir et se retrouver. Bon, quand on va constituer notre majorité, je pense que cette majorité, si elle n'est pas reconduite, il y aura une majorité. Est-ce que ceux qui sont opposants aujourd'hui, ils ne vont pas se retrouver dans la majorité? Et certains qui sont dans la majorité, ils ne vont pas se retrouver opposants. Je donne un petit exemple pour terminer. C'est en 1990, quand on était dans la transition, là, la période de transition, j'avais remarqué quelque chose. Que à chaque fois, parce que Mobutu a fait une série de nominations, qui nommait les gens qui étaient dans l'opposition. Chaque fois qu'il nommait quelqu'un qui était dans l'opposition, il les nomme, tout de suite, les autres devenaient les opposants. Et lui, il devenait majoritaire. Et à chaque fois qu'il entreprenait des actions, les autres contrecarraient. Moi, je pense que le Congo, aujourd'hui, a besoin non pas de tous ces tralala, de l'opposition. D'ailleurs, nous voyons que sur les sujets sérieux, ils sont en train de jouer. Lorsqu'on parle d'augmenter les salaires, je ne vois pas de l'opposant qui disent que non, des députés pour dire que non, c'est trop, c'est beaucoup et tout ça. Ils sont d'accord tout de suite. Majorité opposition, non, ils sont d'accord. Ben, je pense qu'il y a quelque chose que...
Ouais. Oui, moi j'aimerais juste répondre à ta question. Ouais. C'est le fait que tous ces gens-là qui quittent de l'opposition entrent dans le pouvoir ou entrent, qui sont dans le pouvoir entrent dans l'opposition. Moi, je crois que là, c'est vraiment une préoccupation hein, de la population, et la population est devenue mature ici. Et les gens ont remarqué ça. Moi, je vous donnerai un exemple d'un, pour ne pas citer son nom, c'est un beau frère donc, qui s'est présenté aussi comme candidat. Au départ, il voulait être candidat au nom de l'UNC, l'Union Nationale Congolaise.
L'Union pour la Nation Congolaise.
Oui, justement. Et puis, lorsqu'il est allé se présenter pour qu'on essaie d'harmoniser les listes là-bas, on a dit qu'il ne pouvait pas être sur la liste de l'UNC au niveau à la tête, mais au niveau de... Il pouvait être suppléant. Bon, ça ne lui a pas plu. Et il a eu un autre contact, c'était le contact du PDC. Donc l'UNC est un parti d'opposition. Et finalement, dans le PDC, on l'a accepté. Donc le PDC, c'est Parti démocrate chrétien de Enounou. Et là, c'est un parti qui est au niveau de la majorité, qui soutient Joseph Kabila. Et là, il se retrouve, il sera candidat au niveau du PDC dans le territoire de Walungu, au sud Kivu. Donc tu comprends. Donc les gens entrent dans des partis, c'est par sentiment, c'est par profit personnel. Il s'inscrit sur une liste où il peut être élu facilement, mais non par idéologie. Et là, la population l'a aussi compris, quoi. Donc moi, je crois que on est peut-être à une démocratie qui apprend encore dans l'apprentissage démocratique. Il ne faut pas parler de l'idéologie. Les gens se positionnent juste pour essayer de passer. C'est plus des motivations personnelles qu'idéologiques.
Oui, Adrien, est-ce que tu ne penses... Oui, est-ce que tu ne penses pas, parce qu'évidemment, les partis n'ont pas d'idéologie. Parce que quand tu vois même les regroupements de partis, c'est pas par idéologie. Tu vas trouver, je ne sais pas s'ils sont de droite ou de gauche, mais les gens sont, ils se rassemblent comme ça pour des intérêts. Et le peuple, je ne pense pas que le peuple se retrouve dans cet abri, parce que même les partis. Quand je prends par exemple le parti de Vital Kamerhe, ils sont de gauche, des centristes, ou ils sont quoi? Bon, lorsqu'ils vont se réunir avec les autres sont de droite, ils sont, tu vois, que c'est dans ces cercles-là, moi, je ne pense pas que la population puisse se retrouver et dire, bon, l'idéologie est telle et la ligne de conduite est telle. Je pense qu'aujourd'hui, l'opposition, c'est l'opposition par rapport, par exemple, au chef de l'État actuel. Les gens se regroupent par rapport au chef de l'État. Pas par rapport, peut-être, pas même au parti, mais par rapport à la personne. Et c'est ça les difficultés du Congo, c'est que le parti, c'est individuellement.
Question, oui, justement, là, la population l'a comprise. Hein, et c'est pour cela que la population ne montre pas trop d'engouement par rapport à ces hommes politiques qui veulent se retrouver eux-mêmes. Ils sont là juste pour leur profit personnel. C'est pour cela que, moi, j'ai dit, c'est aussi un danger, puisque les parlementaires qui seront élus risquent d'être ceux qui ont beaucoup de moyens, ceux qui ont à donner quelque chose dans l'immédiat, dans ceux qui vont peut-être tromper la population en leur donnant de la bière ou des tricots. De plus en plus, je le sens, il y a beaucoup de candidats pour quelques postes, 5 postes par exemple à la circonscription de Lukunga à Kinshasa pour plus de 1000 candidats. Et il faut pas rêver, ça sera des candidats qui ont des moyens. Donc si tu n'as pas de moyens, tu ne passeras pas. Tu peux avoir de l'idéologie, tu ne passeras pas. Et si tu as des moyens, tu vas passer, puisque la population veut de l'immédiat, des gens qui peuvent faire des actions immédiates, puisqu'ils savent que lorsqu'ils sont, ils arriveront au pouvoir, ils ne feront rien pour eux. Et alors ils disent, bon,
Adrien,
tout sur la voie. Puisqu'il faut tout lire immédiatement.
Il y a Adrien Assukub écrit un œuvre de... Een echte project, een concrete project voor de Congo, voor de toekomst van Congo, daar is geen geen doel voor de eventuele kandidaten. Maar de enige idee gewoon op de macht komen om hun zak te vullen. Als ik een beetje platte Antwerpse spreek.
Là, je t'ai pas bien compris.
Non, mais l'objectif de ces potentiels candidats qui se présentent à l'élection présidentielle, donc ce n'est pas un projet de société qu'ils essayent d'apporter, de mettre à la place publique pour que les électeurs congolais puissent voter un projet de société qu'on leur a présenté, ou c'est tout simplement c'est présenté en essayant d'offrir des cadeaux aux potentiels électeurs pour pouvoir arriver au pouvoir et remplir ses poches.
Justement, c'est ça. Là, c'est bien dit, et là, les gens l'ont très bien constaté, bien que parmi toute cette pléiade des candidats, il y a des gens qui ont la bonne volonté, mais qui malheureusement n'auront pas de moyens, et la population n'aura pas le temps de les découvrir. Puisque pour quand tu découvres, il faut avoir le moyen pour passer aux médias ici à Kinshasa. Si tu n'as pas 200 dollars, tu ne vas pas passer. Tous les médias sont payants. C'est pour cela que je t'ai dit actuellement, par exemple, la visibilité des actions du président Kabila sont partout, même dans les chaînes de l'opposition, qui ont besoin de ces moyens pour que leur chaîne tourne. Donc, ceux qui ont des moyens, ils passent à la télé, ils font passer leurs idées, les gens essayent de comprendre leurs idées, mais ceux qui n'ont pas des moyens ne passent pas. Donc, et parmi ceux qui n'ont pas de moyens, certainement qu'il y a ceux qui ont des bonnes idées religieuses et des bonnes idées. Et moi, je crois que c'est quand même un danger pour la démocratie.
Oui, donc je continue sur ta lancée. Comme tu disais, hein, donc le grand problème que nous vivons au Congo, c'est que les politiques font la politique pour leurs propres intérêts, hein, pour pouvoir gagner le plus d'argent possible, pour pouvoir mettre l'argent dans les paradis fiscaux. Et donc il y a un manque de patriotisme. Dans ce pays, il n'y a pas parmi ces candidats des gens qui sont des patriotes et qui sont prêts à travailler dans l'honnêteté pour faire face à la corruption, pour travailler sur le faire un travail profond au niveau du changement des mentalités. Et c'est ça, donc c'est toujours les mêmes têtes qui sont présentes. Hein. Mais par rapport à tout cela, j'aimerais également attirer l'attention sur un ancien candidat aux dernières élections qui s'appelle Paul-Joseph Mukumubila. Pourquoi sur cette personne? Parce que c'est une personne qui a jamais participé au pouvoir, hein, et lorsqu'il s'est présenté aux dernières élections, il a été indépendant, et dernièrement, il a été, il a reçu le prix par les journalistes. Il a reçu le prix du patriotisme pour toutes ses actions humanitaires qu'il a menées dans le pays, parce qu'il a aidé à la construction de routes, il a soutenu les pauvres, il a subventionné les hôpitaux, et donc c'est quasi le seul que je peux dire que c'est un homme patriotique et qui n'a jamais participé au pouvoir et qui est toujours resté indépendant. Et c'est un homme aussi qui vient avec une idéologie. Et j'aimerais aussi donner son site, qui est le www.ministèredelarestauration.com. Et donc là, sur ce site, vous allez avoir plus d'informations par rapport à son idéologie et tout ce qu'il raconte sur l'avenir du pays. Car l'avenir du pays est lié à... L'avenir de l'Afrique est lié à l'avenir de ce pays. Et l'avenir du monde aussi est lié à l'avenir de ce pays, du Congo. Donc il y a lieu à prêter attention à ce qu'il a toujours dit. Et même à l'époque, il avertissait déjà, lors de la conférence nationale, il avait averti le président Mobutu. Il lui avait dit que la conférence nationale allait accoucher d'une souris. Hein. Et lorsque le Kabila père venait avec les Rwandais, il avait averti la classe politique en leur disant qu'il fallait qu'ils puissent se souder. Parce qu'il y avait un grand danger par rapport à l'arrivée de tous ces gens-là. Et surtout, il avait pressenti, il avait senti le danger de l'arrivée des Rwandais. Et on a vu ce qui s'est passé. Et on voit ce qui se passe aujourd'hui toujours à l'Est.
Merci, merci Christian Bamba. Adrien, nous allons en finir là pour pouvoir continuer les débats ici en néerlandais et essayer de traduire aussi vos propos. Merci d'avoir été des nôtres et continue toujours à essayer de nous prendre des contacts pour les émissions à venir. Merci à toi, Adrien.
Merci beaucoup Giscard, merci beaucoup à tous nos auditeurs. Mais pour finir, j'allais dire en bref, hein, la situation avant la propagande électorale, la situation aujourd'hui, samedi 24 septembre, et il y a des candidats, plusieurs candidats qui veulent prêter pour la poste de parlementaire, des élus du peuple. Ça sera très difficile. Il y a beaucoup de candidats, plus de 13 000 candidats pour 500 places. Et du côté présidentiel, il y a aussi 11 candidats pour une place. Et nous souhaitons que tout se passe, en tout cas, dans la transparence et que surtout qu'il n'y ait pas d'affrontement. Giscard.
Merci Adrien et excellent après-midi à toi.
Je vous remercie aussi. Merci, ciao.
Merci.
La Rochelle.
Et toi, c'est Alain Souchon. Vous êtes un truc aux studios. Christian Bamba et Jean-Jacques Moulage. Ik heb met veel attentie naar Adrien geluisterd. Ik heb echt moeilijk te volgen. Dus we zijn wij Afrikanen achter de Europeanen en Amerikanen aan het kloppen. En het resultaat, het probleem ligt, allez, is mijn eigen mening, het probleem ligt eerst aan ons. We kunnen zelf niet alles organiseren. En het resultaat, allez, anderen proberen gewoon wat we hebben, ze proberen gewoon te stelen. Op een officiële manier. Omdat wij niet georganiseerd zijn. Dat resulteert allemaal van omdat wij geen echte staten. Geen echte stad hebben, geen echte regering hebben, geen echt project hebben voor onze land, voor onze continent. Dat resulteert allemaal van alle die puntjes. Daarom is vandaag de bevolking is zo pessimist over de toekomst van het land. Wat denk jij, Christian, en wat is jouw mening, Jean-Jacques Moulage? Quel est votre avis?
Bon, moi je suis pas pessimiste, je suis optimiste. Vous savez que nous sommes dans ce monde, que nous vivons l'Europe. Vous savez, l'Europe est passée par ce que nous sommes en train de connaître. L'Europe est passée par plusieurs étapes. L'Europe est passée par des dictatures, par des guerres atroces. Quand on parlait de deuxième guerre, de guerre mondiale, l'Europe est passée par beaucoup de choses. Et à un moment donné, ils se sont stabilisés et puis ils ont pris le devant et ils continuent. L'Asie, on a vu l'Asie aussi. On a vu. Donc, ce sont les étapes par lesquelles passent les pays. Malheureusement, nous nous retrouvons dans une situation où, à côté de nous, il y a déjà des choses qui sont faites. Et ce qui nous pousse à croire que, à être un peu, comme tu dis, pessimiste. Parce qu'à côté de nous, il y a déjà des choses qui sont déjà bien établies et tout ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on va arriver là-bas? Moi, je pense que, c'est comme je le disais ici, nous sommes passés par la précolonisation, surtout au Congo. Le Congo était une expérience unique dans le monde, où un grand territoire comme le Congo était la propriété d'un seul individu. Donc, ça n'a jamais existé au monde. Le Congo est passé par là. Donc c'est une expérience unique. De là, le Congo est devenu une colonie. De la colonie, avec son indépendance, le Congo a connu des périodes troubles. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on a connu des dictatures où un seul individu est resté au pouvoir pendant 32 ans. Et vous comprenez ça? Et pendant 32 ans, on a réfléchi de manière unilatérale. On n'avait pas d'autre option que de suivre. Et aujourd'hui, nous sommes pendant, moi je peux dire, si je le compare à l'humain, nous sommes pendant l'adolescence. Tu comprends? C'est-à-dire que quand un adolescent, tu vois, l'adolescent, il cherche encore son chemin. Il cherche encore ses chemins, il se rebelle et tout ça. Il se recherche. Le Congo est en train de se rechercher. Mais je suis tout à fait optimiste. Comme Adrien l'a dit, il y aura une période où, à un moment donné, il y aura une nouvelle classe. La nouvelle classe ne viendra pas avec le mélange de tout à gauche, à droite. Parce que les gens qui sont là, ils vont passer. Ils vont passer. Il y aura une nouvelle mentalité, une nouvelle classe. À ce moment-là, les choses vont aller. Dans d'autres pays africains, on voit aujourd'hui. On voit un peu ce qui se passe aujourd'hui. On voit que les gens commencent à se stabiliser. Quand vous lisez, on vous dit que l'Asie, on ne pouvait pas. Aujourd'hui, on parle des pays émergents, comme le Brésil, comme... tu vois, c'était des pays qui, à un moment donné, étaient dans tout ce que nous sommes en train de parler ici. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, ce sont des étapes. Ce sont des étapes par lesquelles nous passons. La population congolaise, depuis... depuis des milliers de décennies, n'a jamais connu ce que c'est l'élection. Aujourd'hui, c'est tout à fait normal que... C'est comme un enfant. Quand un enfant commence à manger, il se mord les dents. Entre-temps, et puis, il avale à travers. Et puis, il commence à bien avaler. Et puis, bon, deuxième, troisième. Aujourd'hui, les gens... On peut dire que les gens vont peut-être avoir le tricot. Mais les gens réfléchissent maintenant. À qui donner la voix? Même s'ils vont jouer, mais les gens vont réfléchir. C'est pourquoi je dis aux gens qu'il faut arrêter de prendre le peuple congolais comme des idiots. Avec des discours parfois qui n'ont pas de sens. Les gens, ils n'y croient pas. Les gens voient. Et tu te rappelles que j'ai toujours dit que, tu sais, quand il n'y a pas de référence, il n'y a rien. Parce qu'on peut critiquer le gouvernement actuel, mais ceux qui viennent, ils seront jugés par rapport, même si quelqu'un aujourd'hui vient au pouvoir. Les gens vont dire quoi? Mais ceux qui étaient là, ils ont fait quand même la route. Et vous avez fait quoi? Il y aura une référence. Parce qu'il n'y a pas eu de référence, il n'y a rien. Et les gens sont venus avec ceux qui sont venus. Les gens qui ont été dans la majorité aujourd'hui, quand ils reviennent auprès de la population, qu'est-ce qu'ils vont raconter? Parce qu'on va lui dire, mais tu étais là, qu'est-ce que tu as fait? Mais si tu n'as jamais été là, tu peux dire, oui, moi je n'ai jamais été là, moi j'aurais dû faire ça. Deuxième chose, je voulais dire ceci. Pour servir son pays, on ne doit pas être nécessairement président de la République. C'est ça que nous devons comprendre. On peut servir son pays. Quand on a de l'amour, on a du patriotisme, on peut le faire sans toutefois chercher à être seulement à la tête de l'État pour pouvoir faire ça. Nous connaissons des gens ici. Il y a des gens qui font des dons extraordinaires. Il y a des gens qui font des choses extraordinaires, mais qui n'ont jamais postulé des postes. Des responsabilités dans ces pays dans lesquels nous vivons. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai construit une maison à gauche, à droite, et que demain, je dis, voilà, parce que j'ai construit une maison, je dois être président de la République, je dois faire ceci et cela. Et ça, c'est des choses sur lesquelles, qui manquent aussi au Congo, c'est des apolitiques. Des gens qui peuvent, par leurs moyens, pousser les gens à réfléchir. Ici, nous avons beaucoup d'associations, des gens qui poussent à réfléchir d'une manière ou d'une autre, et nous devons avoir ça aussi au Congo. Surtout maintenant. Maintenant, il faut éduquer la masse. Il faut dire à la population, quand tu votes pourquoi? Tu te rappelles jusqu'à jeudi l'autre fois, il faut que la population prête sa voix, pas vendre sa voix. Quand tu vends ta voix, tu n'as plus rien à réclamer à celui que tu as vendu. Mais si tu lui as prêté, tu peux le retirer à tout bon moment de temps. Et c'est comme ça que les gens doivent comprendre. Ils doivent prêter leur voix aux gens qui viennent. Pas le vendre leur voix. S'ils le vendent, ils vendent leur voix, ils vont s'entendre après 5 ans. C'est après 5 ans que les gens reviendront encore pour racheter encore des voix.
Kabila, c'était de providentielle personne.
Providentielle, non. Tu sais pourquoi? Providentielle parce que toutes tes mains sont éphémères. Quelqu'un peut se réveiller le matin, demain, il meurt. S'il est providentiel, ça veut dire que le monde s'arrête là. Donc, c'est-à-dire que le monde s'arrête là. Parce que si quelqu'un est providentiel, c'est que s'il part, c'est fini, tout s'arrête là. Non, personne n'est plus indispensable que l'autre. Personne. l'un est plus indispensable que l'autre. Mais ce que moi je dis aujourd'hui, c'est quoi? C'est que les gens aient l'honnêteté de reconnaître le fait. Et c'est ce que je reproche toujours aux Congolais. Les Congolais veulent se détacher de l'histoire. Que les gens aient l'honnêteté de reconnaître que, voilà, Adrien a dit, moi j'ai étudié à une certaine période. Les gens qui ont étudié, toi tu sais qu'à un moment donné au Congo, à chaque instant qu'il y avait manifestation des étudiants, tu sais ce qu'on faisait? Fermer les universités, fermer les écoles. Et à un moment donné, on a eu au Congo des années académiques qui allaient en deux ans, une même année. Et moi, je connais des gens qui ont fait deux ans dans la même année. Parce qu'ils ont commencé, on a fermé. Pendant qu'on a fermé, on a réouvert après, ils retrouvent dans la même année. Donc, il a passé 7, 8 ans à l'université, 9 ans. Parce que, non pas parce qu'il a échoué, c'est parce que les années ont été interrompues, on recommence. D'ailleurs, on a vu que les examens d'État, les résultats sortaient pendant que l'année académique est déjà au milieu. Et ces gens-là qui obtenaient les résultats devaient attendre l'année qui viendra pour pouvoir s'inscrire. Donc, tout ça, ce sont les résultats du grand désordre dans lequel on a connu. Et c'est très difficile, quels que soient les candidats, de mettre de l'ordre, et je pense maintenant, il y a un peu de l'ordre, parce que je pense qu'ils ont commencé en septembre aussi. Parce qu'il y a eu, il y a quelques années, là, on commençait l'école en janvier, les autres commençaient en février. Bon, on ne savait pas que c'est où et c'est comment. Mais je pense que c'est pourquoi j'ai dit tantôt que c'est sur une voie. Et cette voie-là, il ne faut pas venir pour interrompre, pour dire, mais voilà, balancer tout. Parce que l'habitude des Africains, c'est quand ils viennent, tout ce que l'autre a fait, table rase. On recommence à zéro. Et on perdra beaucoup de temps en recommençant à zéro.
Christian Bamba, quelle économie se projette et quelle économie se modèle pour le Congo, ou pour les Congolais?
Quelle économie se projette? Je pense que le land est rijk, mais Er moet denk ik veel in.
Ga ik een beetje fantaseren?
Huh?
Ik ga een beetje fantaseren. In... Dus op 6 december Kabila is herkozen als de president van Congo. Mm-hmm. En ze hebben een meerderheid in het Congolese parlement. Wat zal de project van de Kabila voor de Congolezen?
Project voor de Congolezen?
Mm. Economische project voor de Congolezen.
Economische project voor de. De Congolese. Ik denk dat het land moet eerst over financiële middelen beschikken. Hè? Dus voordat hij over financiële middelen beschikt, moet hij eerst. Alle bronnen van inkomsten, hè, goed controleren. Hè. Dus corruptie, hè, strijden
tegen de corruptie.
Tegen de corruptie, ja. Hè. Omdat elke jaar vertrekt ook zoveel geld naar het buitenland. Hè. Dus eerst onze eigen inkomen goed controleren. Hè.
En
het tweede, een klimaat scheppen zodat
de
investeerder trouw in investering in de Congo.
In de Congolese economie.
In de Congolese economie. En zo denk ik dat we kunnen. Een oplossing met de tijd.
De huidige president heeft zelf laten bekijken, laten zien als de mensen die heeft een democratie in het land gebracht. En tevreden, maar tot nu toe, er zijn ook een aantal problemen in het oosten van Congo. Wat zal zijn balans in verband met een vredeprocessus?
Tot nu toe hebben we niks over het oosten van Congo gezegd. Hè? En dat is echt een
een ramp.
Ja, het is een ramp omdat een paar dagen geleden was de herdenking van 11 september gebeurd. Hè? Maar wat de meeste mensen vergeten, het is dat het feit dat elke dag, hè, het gebeurt in Oost-Congo meer dan een 11 september. Hè? Dus het is echt een ramp. En een ander probleem is dat de internationale gemeenschap, hè, doet niks over het probleem. Hè. Er was een interventie in Libië, hè, maar op internationaal niveau werd het bijna niks gedaan om het probleem op te lossen. Ze hebben normaal de morele verplichting, hè? Morele plicht om iets te doen. En dat gebeurt niet.
Je poserai la même question à Jean-Jacques Mollage. Le chef de l'État actuel a été présenté comme la personne qui a pu obtenir des accords de paix avec les pays voisins du Congo. Il a été présenté comme l'homme de la situation, et jusqu'à ce jour, donc il y a toujours des viols à l'est du Congo, il y a toujours des affrontements, et ma question est quel sera son bilan en ce qui concerne la paix et la sécurité du Congo?
Bon, mais je pense que j'ai lu dernièrement un peu les discours qu'il a fait. J'ai essayé de lire le discours fait chaque année, le discours de la nation. Bon, apparemment, je suis toujours étonné parce que dans tout ce qu'il a dit, dans tous les discours que j'ai dit, il n'a jamais dit qu'il a réussi. Il a toujours nuancé. Donc, il n'a jamais dit. Donc, moi, je pense que le seul qui n'a jamais dit qu'il a réussi, tout ce qu'il a dit. Il a nuancé. Il y a eu, comme on a dit, comme l'Adrien l'a dit, il y a des avancées dans certains domaines. Il y a encore des choses qui restent à faire dans d'autres domaines. Mais le plus grand problème, jusqu'à c'est quoi? C'est de savoir comment. Quelle est la source de tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui? C'est ça le problème. C'est de savoir d'où vient le problème qu'il y a au Congo aujourd'hui. Vous savez, le problème de la sécurité du Congo, moi je l'analyse comment? Avec le brassage. Parce qu'à un moment donné, il y a eu des armées, différentes armées, milices. Au Congo. À un moment donné, on va brasser. Mais tu sais, quand on fait, c'est ce qu'on dit, les mélanges, tout ça, c'est des trucs difficiles à contrôler. Bon, il y a certains miliciens qui appartenaient, je donne un exemple, au RCD, qui jusqu'à aujourd'hui restent toujours en contact avec le responsable du RCD. Pour eux, leurs responsables, ce sont les gens du RCD. Bien qu'ils sont dans l'armée, on les a mis dans l'armée, mais ils restent, ils se comportent comme des gens. Jusque-là, à l'époque du RCD. Bon. Je lisais quelque chose sur le comportement même de membres de la MONUC. Vous savez qu'on parle de viol. Mais vous savez que ces gens-là violent plus que parfois ce qu'on dit. Et ce que j'ai lu m'a révolté. Et à chaque fois que les gens de MONUC sont accusés de viol, de ceci et cela, normalement, les Congos ne peuvent pas les juger. Et qu'est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont menées par l'ONU, la MONUC. Et la MONUC couvre tous ces faits-là. Que ce soit au Congo, que ce soit en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai lu le rapport sur la Côte d'Ivoire, j'ai lu le rapport sur le Congo et tout ça. Et que ces gens-là, ils passent leur temps à violer, à prostituer les enfants, parce qu'ils ont assez de moyens. Par rapport aux autres, ils passent leur temps. Mais ça, on ne parle pas. Ça, on ne parle. Personne n'en parle. Mais on va prendre le cas des viols. Et ça, c'est le même. C'est toujours des viols des Congolais, par exemple, des militaires congolais, des miliciens congolais. C'est des cas qu'on brandisse. Mais il y a ces gens-là qui font du dégât. Du dégât, sérieusement. Mais ils ne sont pas inquiétés, outre mesure. Et tout ce qu'on fait, parfois, c'est quoi? C'est les ramener chez eux. Donc, s'il y a des pressions, on prend, on les ramène, on les fait rentrer chez eux. Giscard, tu vas t'étonner que après toutes ces histoires-là, nous aurons au Congo une multitude de races. Ce sont des enfants qui vont naître des Indiens avec les Congolaises, des Hindous pakistanais avec tout ça. Parce qu'il y a aussi des cas, de tous ces cas de viol là. Mais ça, ce n'est pas mis à la lumière. Ces gens-là sont venus pour amener la paix, non? Ces gens sont venus pour amener la paix. La MONUC est basée, ça fait combien de temps? Ça fait plus que 5 ans qu'ils sont là. Si aujourd'hui on dit que, bah voilà, Kabila n'a pas réussi à mettre la paix. Mais eux, c'est la MONUC, c'est la mission pour la paix. Est-ce qu'ils ont fait leur bilan, eux? Leur présence au Congo. Parce qu'ils sont venus pour ça. Pour mettre la paix, pour aider à mettre la paix au Congo. Bon, s'il n'y a pas de paix, qu'est-ce qu'eux disent? Les représentants de l'ONU qui est installé au Congo, qu'est-ce qu'ils disent dans ce cadre-là? Qu'est-ce qu'il dit? Deuxième chose aussi, qu'il faut aussi le dire, il y a aussi quoi? Il y a tellement d'intérêts, surtout à l'Est, que c'est un truc qui est difficile. Moi, j'aurais voulu demander aux autres candidats, quand ils viennent, ils passent, qu'est-ce qu'ils font pour résoudre ce problème-là? Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'intérêts là-dedans. Il y a beaucoup de gens, quand il y a, je donne un exemple, à un moment donné, la population avait marché sur Kinshasa pour demander le départ de William Swing, le représentant de la MONUC et tout ça. Mais tout d'un coup, il y a eu une contre-manifestation, et c'était contre-manifestation de l'UDPS, qui soutenait William Swing. Et quelques jours après, quelques jours avant, eux, ils ont réclamé le départ de William Swing. Tu vois que c'est ça notre problème. Nous devons être unis. Le Congo est à nous. Le Congo, c'est nous. C'est nous qui devons faire du Congo, ce n'est pas les autres. Ce n'est pas tous ces gens qui viennent. Ils n'ont rien à faire avec. Quelqu'un qui quitte des milliers de kilomètres, vous pensez qu'il est venu pour mourir pour vous? Non. Peut-être qu'il n'a pas été d'accord. Peut-être qu'on l'a choisi. Il vient. Il a quel intérêt là de venir mourir? Il vient pour ça.
Et puis l'autre problème, l'autre grand problème, c'est que c'est l'aveuglement de tous ceux qui soutiennent Kabila. Hein? Pourquoi? Parce que Kabila, il est de mèche avec son frère Kagame. Et on connaît les intentions de Kagame pour le Congo. C'est ça aussi tout le problème. C'est un aveuglement terrible.
Christian Wamba, permettez-moi de ne pas être en accord avec vous. Sur quelle base vous pouvez affirmer cela?
Sur quelle base?
Que Kabila est de mèche avec Kagame. Avez-vous des éléments de preuve pour prouver cela?
Mais tout le monde connaît ses origines.
Tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi et qui?
Mais ses origines sont connues au Congo. Hein?
Les problèmes, ce n'est pas tout le monde les connaît. Avez-vous des preuves palpables de démontrer que non, le chef de l'État congolais n'est pas congolais?
Mais ça a été, on en a parlé. On en a parlé. Il y a des gens qui ont relaté tout ça.
D'accord. Bon, ça, ce n'est que
des propos. Bon, je voulais un peu intervenir sur ce point-là pour dire que, c'était des propos. Je voulais dire quelque chose sur ça.
Non, mais Jean-Jacques, s'il te plaît, on ne va pas entrer dans ces genres de sujets.
Non, je n'entre pas, je ne veux pas. Je vais dire ceci, le problème de l'insécurité de l'Est, je ne vais pas entrer dans... C'est d'abord, quand on demande des preuves, on dit tout le monde connaît, ça ne c'est pas une preuve. Parce que moi, je ne connais pas. Donc, je ne suis pas parmi tout le monde. Donc, ce que je vais dire, c'est ceci, le problème, l'instabilité de l'Est a été provoquée de manière consciente. De manière consciente. Ça a été provoqué de manière consciente. Et nous savons... Et c'est ce que ça m'étonne que les Congolais fait semblant de ne pas voir d'où est venu le problème. Je suivais tantôt et je peux l'amener. J'ai un document sonore et visuel dans lequel M. Nguanda parle que quand il y a eu génocide au Rwanda, quand la France est entrée et que les FPR avançaient, la France a aidé à faire fuir l'armée de l'ex-président rwandais Habyarimana. Et ça, ce sont des propos que Nguanda dit. Nguanda dit qu'un gouvernement, c'est tout un gouvernement qui est parti du Rwanda pour entrer dans le Kivu. Un gouvernement, c'est-à-dire avec militaires, des ministres. Donc, c'est tout un gouvernement qui s'est installé à l'Est. 1 300 000 personnes sur un territoire. 1 300 000. Voilà l'instabilité a commencé de là. Bon, quand on parle de viol aujourd'hui, moi j'ai vu à la télévision les gens qui disent qu'ils défendent l'équipe, le Maïmaï. Tout à la télévision, ils expliquent comment ils violent. Ils disent que c'est spirituel et tout ça. Mais ces gens-là sont des Congolais, ils ne sont pas des Rwandais. Donc, n'essayons pas de déplacer les problèmes là où il n'est pas. Les gens qui violent, et je comprendrais que si les Rwandais violent, d'abord il est un étranger, mais si les Congolais violent sa propre sœur, c'est ce qui est grave, c'est ça. Parce que ce soit les militaires, nos militaires à nous, ils font ça. Que ce soit tous ces milices-là qui prétendent défendre Maïmaï et tout ça, ils font ça. Alors, quand on va déplacer pour dire que non, ce sont les Rwandais, ça c'est déplacer les problèmes et on n'aura pas de solution. Parce qu'il n'y aura pas de solution pour ça. La solution doit être trouvée dans sa cause. Et aujourd'hui, tous les problèmes, et je crois que nous devons demander des comptes. Nous devons avoir aussi le courage de demander des comptes aux Français qui nous ont amené ces gens-là, qui nous ont installés, qui ont amené un désordre indescriptible d'ailleurs au Congo.
Échanger avec vous, bien op het einde van onze programma, een laatste vraagje. Wat zal de positie van de nieuwe Congolese regering op in de vlak van diplomatie tussen België en de Europese Unie en de buurlanden Rwanda, Angola, Congo, Brazzaville en alle andere landen. Wat zal, want wij hebben al gezien tijdens die, toen de heer De Gucht minister van Buitenlands was, van Buitenlands was, het was een serieuze ruzie tussen de Congolese regering en de Belgische regering. En nu, de relatie gaat iets beter. En na de verkiezing, wat zal... Wie weet nog niet wat zal resulteren van die verkiezingen. Maar wat zal de positie van de nieuwe Congolese regering?
Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Je crois que c'est sur le plan de la diplomatie du Congo par rapport aux autres pays.
Par rapport à ces pays voisins et par rapport à l'Union européenne et à la Belgique en particulier.
Bon, mais je crois que par rapport aux pays africains, les relations sont bonnes. Les relations sont bonnes parce qu'il y a... Bon, le Congo est dans plusieurs organisations, soit avec le pays du sud de l'Afrique, Afrique australe, Afrique centrale. Et je crois que les relations, la diplomatie, là, à un certain moment, la diplomatie va quand même mieux. Bon, que ce soit avec l'Union européenne, avec la Belgique en particulier, depuis un certain temps, bon, je pense que ça va, c'est... tu sais, le Congo, ce n'est pas n'importe quel pays. Et c'est ce que nous devons comprendre, ça. Le Congo, c'est un pays que peut-être nous, Congolais, on ne se rend pas compte. Pourquoi on ne parle pas des autres pays? Parce qu'il n'y a pas qu'au Congo, ça ne va pas. Mais tu sais, quand ça ne va pas au Congo, c'est tout le monde parle. C'est parce que, et c'est là où je rejoins un peu ce qu'avait dit Christian à un moment donné. Vous savez, le Congo est le poumon de l'Afrique et tout ça. Quand le poumon est malade, c'est tout le corps qui est malade. C'est pourquoi, pour soigner, il faut soigner le Congo pour que les... Mais entre-temps, les richesses, les potentialités du Congo font aussi le malheur du Congo. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde que j'appelle moi. Le monde est un monde de voyous. Je l'ai dit toujours, le monde international, c'est un monde de voyous. C'est un monde où il n'y a pas de moralité. Très souvent, quand je parle avec mes compatriotes, je dis que je suis étonné quand j'écoute les discours des Africains. Ils sont trop moralisateurs par rapport au monde. Le monde international, ce n'est pas un monde de morale. Vous savez, c'est un monde de voyous. Pour dire quoi? Quand les gens ont besoin de quelque chose, ils sont capables de créer des situations. Regarde ce qui vient d'être créé en Libye. Toi, tu penses que c'est pour le bien des Libyens? Non. Ils ont bombardé, ils ont tué. Bon, ils s'en foutent. Hein. Mais parce qu'ils ont intérêt à quelque chose. Bon, on va dire qu'on défend la population libyenne, mais on va bombarder la maison de Kadhafi. Mais il y a des enfants dedans qui sont aussi innocents, peut-être. Tu vois que c'est un monde où ce sont les intérêts qui conduisent et ils s'en foutent de tout le reste. Les États-Unis sont allés bombarder en Irak. Ils ont terminé le problème de l'Irak. Ils sont en train de partir. Alors, en Afghanistan, ils ont dit qu'on va. Est-ce qu'ils ont terminé le problème? Mais ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et ils sont partis. Nous sommes dans ce monde-là. Et c'est pourquoi je dis toujours, dans le monde des voyous, il faut savoir se protéger soi-même. C'est comme tu vis dans un quartier où il y a le banditisme. Qu'est-ce que tu fais? Tu apprends les karatés parce que tu dois te protéger. Tu apprends les karatés, tu apprends les judo, le self-défense pour dire que je peux me protéger. Et nous devons d'abord ça. Et quand quelqu'un sait que Giscard, c'est un judoka, il vient de t'attaquer. Non, hein? Il réfléchira deux fois pour venir chercher la bagarre chez toi. Mais quand on sait que Giscard, c'est rien du tout, mais tout le monde viendra chez toi. Demain, tu sors un tel maître, cogne dessus et tout ça. Nous sommes dans ce monde-là.
D'accord.
Moi j'aimerais. Dernier mot. Toujours par rapport à la situation à l'Est et par rapport à, aux relations belgo-congolaises. Hein, les Belges ont colonisé le Congo. Hein, et les Belges sont ceux qui est très difficile pour eux de ressentir ou de percevoir. Hein. Donc il y a comme une relation familiale entre le Congo et la Belgique. Hein, donc du point de vue des Congolais, hein, bien sûr, les relations familiales sont différentes ici au Congo, en Belgique, et c'est peut-être très difficile pour les Belges de percevoir cela. Hein, mais les Belges nous ayant colonisé, ils sont chez nous comme famille, et vous n'allez pas contredire cela. Hein. Si on les appelle des oncles ou des nocos, ce n'est pas un vain mot. Hein. Donc il y a une certaine relation familiale. Ils sont pour nous famille. Hein. Par rapport à ce qui se passe à l'Est, je pense que ce qui se passe dans l'Est, c'est un désastre. Hein. Et la Belgique, par rapport à cela, a, je pense, l'obligation morale de tout faire pour conscientiser la communauté internationale afin qu'il puisse y avoir une solution à ce problème. Hein. Parce que, bien sûr, moi je suis comme vous le savez, je suis spirituel et je vais rappeler une parole du prophète Paul Mukungubila, parole qui pourra sembler peut-être une folie, hein, mais il dira que la situation de le manque de paix dans ce pays, hein, ça va conditionner le manque de paix ailleurs. Ça peut sembler fou, hein, mais voyons voir.
Merci, merci Christian Bamba. Merci d'être venu chez nous à la radio. Jean-Jacques Mlage, merci. Vondre bedankt om voor uw aanwezigheid hier op het studio. En ook, ik zou ook zeggen, vriendelijk bedankt aan alle luisteraars van Radio Centraal en specifiek van de redactie. En we komen tot het einde van onze programma. Bedankt aan iedereen en tot binnenkort. Dank u.